Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Bonjour à tous et bienvenue à Frison pour cette huitième étape, huitième épisode, qui va nous mener jusqu'à Mirecourt, la capitale du violon. Mais je ne vous en dis pas plus. Pour le moment, je suis reçu chez Véronique et Régis, qui sont des auditeurs depuis très longtemps. Et donc c'est pour ça que hier j'ai fait autant de kilomètres, parce que je me suis dit, bon allez, on va aller à Frison. Mais bon, et puis aussi parce que je n'ai pas trouvé d'hébergement avant. Et donc, Véronique, elle est à la retraite, mais elle était professeure des écoles, comme on dit. Mais elle dit instit, parce qu'elle est cool. Et Régis, il est directeur d'école, mais parce que là, il n'est pas là pour rigoler. Mais Régis, il est en activité. Alors Véronique, c'est quoi ton rêve ?
Moi, mon rêve, c'est de pouvoir continuer à vivre comme ça. Moi, je suis un petit peu... J'ai l'impression d'être en sursis, parce que comme j'étais malade jeune, je ne pensais pas pouvoir élever mes enfants. J'avais peur de ça. Donc j'ai réussi à les élever à peu près. Donc tout ça, c'est un peu du bonus pour moi. Donc, pouvoir continuer à vivre comme ça avec Régis, avec nos enfants, avec tous les amis que j'ai autour de nous, puis avec lesquels on fait des activités. Et puis, de continuer comme ça, voilà, dans cette joie-là. Après, j'ai une petite phrase que j'aime beaucoup, qu'un de mes amis étudiants m'avait dit il y a, je ne sais pas combien d'années, 40. C'était un ami iranien étudiant qui m'avait dit « Le jour où tu es né, les gens autour de toi riaient et toi tu pleurais dans ton berceau. Vis de telle manière que quand toi tu mourras, les gens pleureront mais toi tu souriras parce que tu seras heureux de la vie que tu as eue et qu'elle se termine bien. » Donc je voudrais aussi, une de mes envies, c'est de mourir dans la dignité surtout, de ne pas avoir une mort difficile. L'autre rêve, c'est Régis qui va le dire.
Ah. T'es déjà au courant de ses rêves, toi. Bah, vous avez des conversations très intimes.
Ouais. En fait, c'est parce qu'on a un rêve en commun tous les deux. Je pense que c'est quelque chose, je ne sais pas, tu me diras si je me trompe, qu'on a rêvé il y a 30 ans, quand on était tout jeune encore. On s'est toujours vus, vieux, sur un banc, en train de boire le café tous les deux. Et donc, on s'est donné ce rendez-vous-là. Ça fait 30 ans qu'on rêve de ce moment-là, peut-être même plus que ça. Alors on n'y arrive pas tout à fait, mais on y arrive bon an, mal an. Et l'idée, c'est quand même, je pense, qu'on puisse être un peu préservé de tout ce qui pourrait arriver dans notre vie et dans notre corps. Et on voudrait ce rendez-vous-là, le vivre pleinement, d'ici 20, 30, 40...
40 ans. Et, je serais vieille, moi.
Parce que, bon, Régis, il a encore 10 ans à travailler. Il est où, ce banc ?
Ah bah, le banc, il est devant chez nous. En fait, je pense qu'il est sous notre fenêtre. En fait, on triche déjà un peu parce qu'on fait déjà le café quand il fait beau, là, au mois de mars, avril. On boit déjà ce café-là quand il fait doux, devant chez nous. Mais je pense que Véronique, comme moi, si on a imaginé ça, c'est parce que ses parents, pour ses parents à elle, le banc près de la maison, c'était important. Et moi, mon grand-père, je l'ai vu très très souvent quand je sortais de l'école, sur le banc, à regarder les gens qui passaient, à être souriant, à être prévenant, j'allais le voir. Et je crois que cette histoire de banc, là, c'est peut-être venu de ça. Et donc notre banc est déjà là, on triche un peu parce que le café, on le boit déjà, mais on a vraiment cette envie-là de pouvoir être tous les deux heureux dans 20 ans à boire notre café avec un petit rayon de soleil qui nous réchauffe notre vieille carcasse.
Puis moi, les bancs, c'est un peu... Enfin, à chaque fois qu'on se balade, quand on va marcher, quand on fait nos grandes marches, j'aime bien m'arrêter à tous les bancs. Donc, ils râlent souvent parce qu'ils disent « Pourquoi qu'il n'y ait pas de bancs ?» Parce que moi, c'est vraiment... J'aime bien me poser, regarder, attendre. Puis hop, au moment, on repart. Mais j'adore les bancs.
Et on a des kilomètres à faire en attendant. Donc, moi, des fois, je les cache. Je dis « Non, non, là, il n'y a pas de bancs, il n'y a pas de bancs. » Mais bon, ils les voient toujours.
Pour moi, c'est un bonheur quand je vois un banc et que je vois quelqu'un sur le banc... Je peux aller m'asseoir et puis le faire parler. Et...
Alors, le rêve de ma retraite, je rêverais vraiment de faire une grande fête avec les copains le jour de ma retraite. Et le lendemain, mettre mes pieds dans des godillots et d'ici partir à Saint-Jacques-de-Compostelle. Sur les pas d'Hervé Pochon, par exemple. De mon cousin.
De Saint-Jacques, surtout.
De mon cousin qui l'a fait, de mon oncle aussi qui l'a fait deux fois, qui était aussi hospitalier pour accueillir les gens. Et c'est quelque chose dont j'ai toujours rêvé. Alors depuis ici, ça fait à peu près 2200 km. Donc je rêverais être à peu près en forme pour faire l'aller et le retour à pied.
Ah oui, joli.
Voilà. C'est un rêve très très personnel. On verra bien si dans 10 ans le corps est encore là pour ça. Mais oui, c'est quelque chose qui me tient à cœur depuis un bon bout de temps maintenant.
Et toi, Véronique, qui a fait le chemin de Stevenson, ça te fait rêver, Compostelle?
Bah, moins, je ne sais pas pourquoi. Mais bon, s'il le fait, j'irai quand même faire des petits bouts avec lui, je pense. Après, on a aussi envie, quand même, on a comme un autre rêve plus proche, c'est de qu'il puisse avoir un mi-temps annualisé et qu'on parte sur 5 mois, on va dire, en vélo en France. Voilà, faire le tour de France en vélo. Mais pour ça, faut qu'il ait son mi-temps annualisé.
Bon.
Voilà.
Si le ministère est à l'écoute, Régis Conraux souhaiterait un mi-temps annualisé. Voilà. Bon, bah, sur ce, j'ai plus qu'à marcher. Encore merci pour votre accueil. C'était une super invitation. J'étais bien content de découvrir cette belle région. Et maintenant, je continue. Allez, ciao! Il est 8h15 et l'étape débute sous un ciel gris. Ça pleuviote un petit peu, mais rien de grave. Et je suis sorti de Frison. Il y a une belle allée des marronniers qui permet d'arriver à Frison. Mais là, je suis entre deux prairies. Régis est allé à son école où il est directeur, mais aussi professeur, donc il avait une classe de CE1. Et Véronique, elle allait s'occuper d'une femme afghane à qui elle apprend le français, qui a 6 enfants, et elle était institutrice à la retraite. Elle a conservé la passion de transmettre. Souvent, vous me demandez, alors, mais qu'est-ce que vous avez mangé? Eh bien, hier, j'ai dégusté une quiche lorraine, évidemment. Après le pâté lorrain d'Heidi, la quiche lorraine de Véronique. Cette étape, c'est pas mal, c'est une 20aine de kilomètres. Régis m'a conseillé un petit chemin pour en rajouter 2 kilomètres. Et ce soir, je serai à Mirecourt. Et je suis content parce que j'ai trouvé un hébergement chez un luthier. Mais pas un luthier qui fait des violons. Un luthier, vous voulez savoir ce qu'il fait? Faudra écouter demain. Et un signe rigolo, c'est que hier, j'ai reçu un message de Joël qui me dit « Ah, mais si, vous devriez passer à Mirecourt, et si vous passez à Mirecourt, vous devriez aller voir Jean-Claude. » Et le hasard fait que c'était chez Jean-Claude que j'avais trouvé un hébergement. Hein ? La vie est bien faite. Et Joël, il poursuit après en disant « Si par hasard, vos semelles de vent vous mènent au village de Martigny-les-Bains, dans le sud-ouest du département des Vosges, c'est là que je passais mes vacances étant enfant, chez mon incroyable grand-mère, une femme tellement aimante, tellement tolérante. Elle n'est plus là désormais, mais je conserve dans mon cœur, dans cette maison, dans ce village, les souvenirs les plus chers de mon enfance. Ce serait un grand honneur si vous pouviez avoir une pensée pour elle, pour sa mémoire, pour Marie-Thérèse, ou simplement Thérèse, car elle n'aimait pas qu'on l'appelle Marie. Eh bien, c'est fait. Pour ma part, j'habite dans le bocage normand, non loin de Vire, mais vu la direction que vous empruntez, je crois que vous passerez bien plus au sud. Mon rêve, ce serait de faire de mon terrain un havre de biodiversité et de toujours continuer à m'émerveiller, de toujours avoir soif de connaissances pour le monde vivant et pour ces créatures qu'on considère comme insignifiantes. Il y a pourtant tellement de beauté, tellement de mécanismes d'adaptation fascinants dans un insecte ou une araignée. Ils ne méritent pas notre mépris, notre peur, notre acharnement à les exterminer. Ils ne méritent même pas notre indifférence. Mon rêve, ce serait de posséder toujours plus de connaissances naturalistes et d'être capable de transmettre un peu de mon émerveillement pour ces minuscules. Juste avant que je vous écrive, j'observais une Héliophanus, une minuscule araignée sauteuse, qui a établi son territoire autour de la fenêtre de ma cuisine et que je vois arpenter depuis quelques semaines. Elle ne me dérange pas, je ne la dérange pas. Il est tout à fait possible de vivre en bonne entente. Bonne marche, Hervé. Eh bien, merci, Joël, et je pense que ma femme, qui a eu une phobie des araignées, va beaucoup apprécier votre message. Chaque fois qu'il y a une araignée, et même mon fils Nathan, elle a transmis ça. Donc, je me fais fort d'être le sauveur des araignées. Je les prends dans un mouchoir et je les mets dehors. Non, je suis désolé, je peux pas aller les garder dans la maison. Sinon, ma femme va s'en aller. Hein. Oui, hier, vous avez dû entendre parfois un petit grésillement. C'est quand j'oublie de mettre mon téléphone sur mode avion. Eh bien, ça fait des parasites. Et là, je sors de Saint-Vallier et j'entends un couple dans mon dos. Et quand ils vont me dépasser, ils vont avoir droit à ma question. À gauche, une ferme avec toutes sortes de choses, des vieilles remorques, un tas de bois. Bonjour, messieurs, dames.
Bonjour.
Quel est votre prénom ?
Julien.
Marie-Josée.
Qu'est-ce qui vous rend heureux, Julien ?
Oula ! Un peu de soleil.
Ah bah c'est dans votre tête alors.
Il faudrait, oui.
Non, moi c'est d'être dans la nature. Là on est bien, dans ce petit village on est tranquille.
Vous habitez Saint-Vallier ?
Oui.
Vous êtes à la retraite ?
Oui.
C'est pas beau de préjuger de l'âge des gens comme ça.
C'est vrai, mais comme elle m'a dit qu'elle profitait de la nature, qu'elle est en train de se promener un mardi à 9h...
Avec monsieur le maire.
Ah, c'est monsieur le maire.
Oui.
Oh, monsieur le maire, mais pardon, je vous dois beaucoup plus de respect que je n'en ai manifesté.
Non, pas tant que ça.
Quel est votre métier, vous ?
Alors, moi, je suis apiculteur professionnel. Mon travail fait mon bonheur, ça, il n'y a aucun souci là-dessus.
Il manque du soleil
pour ça, pour qu'elle puisse profiter des fleurs.
Et qu'est-ce qui vous a donné envie d'être maire ?
J'avais pas particulièrement envie, ça s'est fait un petit peu comme ça, parce que la personne qui était avant ne pouvait plus prendre la fonction, donc voilà, il en fallait un. Par contre, je m'excuse parce qu'il faut qu'on s'occupe du monsieur.
Qu'est-ce qu'il fait le monsieur ?
Il va mettre
en place le nouveau point d'apport volontaire, voilà, pour les habitants, qui va être mis juste là. Voilà.
Ah, c'est le tri sélectif ?
C'est ça, tout à fait, ouais.
Vous appelez ça comment ?
Un point d'apport volontaire.
Ouais. Ah, ouais. Qu'est-ce qu'il y a de particulier à Saint-Vallier ?
Une vue magnifique.
La fontaine Valère.
Elle est où, la fontaine ?
Dans le bois de Saint-Vallier, qui est à quoi ? 3 km, Julien ?
Oui.
Oui. Et c'est la même eau que Contrex ?
C'est ça, Contrex Vitel, ouais, c'est ouais. Ça. La même qualité d'eau minérale qu'on trouve à Contrex ou à Vitel.
Ah ouais, donc c'est bien ça, on a bonne eau gratuitement.
Voilà, c'est ça.
Et alors, vous êtes adjointe au maire pour le suivre comme ça ?
Non, même je suis pas. Conseillère municipale.
Ah bah oui, conseillère municipale, c'est,
voilà,
ouais, c'est ça.
Voilà.
C'est une charge, ouais. Et vous êtes en charge de quoi ?
Des containers, là, enfin de tout.
Ah ouais. Vous êtes combien en tout à être conseiller ?
On est 6, on était 7, il y en a un qui a démissionné. Donc.
Il y a le camion qui recule vers nous. Et il y a combien d'habitants à Saint-Vallier ?
On est une centaine.
Et qu'est-ce qui vous a amené à Saint-Vallier ?
Ah, moi je suis née ici.
Donc,
voilà.
Et vous n'avez jamais bougé ?
Si ! Oh, si, on a fait l'Allemagne, mon mari était militaire, donc on a été partout. Voilà.
Et vous avez travaillé ?
Oui, j'ai travaillé, j'ai commencé à Épinal, après j'ai travaillé un peu partout, mais j'ai fait de tout.
Ouais.
Polyvalente.
Bon, bah, écoutez, je vous laisse vous occuper du container, hein, et puis je vous remercie.
Merci beaucoup, et puis bonne journée.
Merci.
Au revoir.
Et Julien dispose les containers sur une petite dalle qui a été aménagée à la sortie de Saint-Vallier. Et je suis dans la forêt de Vroville et je réalise que j'ai posé au maire et à sa conseillère la question de l'année dernière. Je leur ai pas demandé leur rêve. Eh bien, ça m'apprendra. Et je suis passé par Highville et j'ai traversé d'Herbamont. J'ai pas croisé grand monde. Hein. J'ai croisé deux agriculteurs sur leur tracteur, mais bon, j'ai pas osé les arrêter quand même. Et deux cyclistes que j'ai interpellés en disant « Vous parlez français ?» Ils m'ont fait « Non, alors j'aurais dit « Bonne route, ils m'ont dit « Gracias !» !» J'ai compris qu'en espagnol, j'allais pas aller bien loin. Et là, je suis sur cette petite route forestière, avec de temps en temps un petit mirador qui doit être utilisé par les chasseurs. D'ailleurs, je sais pas si ce sont les chasseurs, mais j'ai trouvé un nombre de canettes incroyables. Enfin bon, ça, on va pas accuser les chasseurs non plus. Hein. Il y a d'autres gens qui polluent. Mais les canettes de bière, c'est pas trop les marcheurs. Je vais vous lire là, pendant que je suis sur cette allée forestière, un petit message que j'ai reçu de Catherine. Bonjour Monsieur Pochon. Comme les hirondelles promettent le printemps, votre retour sur les chemins annonce les jours qui rallongent, l'air qui se radoucit, le soleil qui de nouveau réchauffe, les arbres qui se parent de feuilles vert-pomme. Vous ne le savez pas, mais vous et moi, nous nous retrouvons tous les jours pour le petit déjeuner. Je dois même avouer que, quand je vous écoute, celui-ci se prolonge au-delà du temps qui lui est normalement imparti. En résumé, c'est un plaisir de vous retrouver pour ces virées au long cours où l'on voyage, même si c'est par procuration. Depuis 3 ans, vos questions me laissent dans d'intenses réflexions. Je ne pense pas avoir encore trouvé de but. Je ne suis pas non plus certaine de savoir vraiment ce qui me rend heureuse. Quant à mon rêve, sur ce dernier point, j'ai peut-être plus de certitude. Que mes enfants soient heureux, si ma fille semble sur la bonne voie, il reste du travail pour mon fils, et pouvoir me libérer des contraintes du quotidien pour avoir plus de temps pour moi et pour m'adonner à mon hobby préféré, la couture. Ce ne sont en rien des rêves de grandeur ou de pouvoir, mais je crois, en entendant les personnes que vous rencontrez, qu'elles aussi ont des rêves qui ont les pieds sur terre. Je vous souhaite une bonne route. Eh bien, Catherine, je vous souhaite de coudre. Et là, le soleil pointe ses rayons sur moi et me chauffe le dos. Ce qui m'inquiète, parce qu'à cette heure-là, ça veut dire que je marche un peu vers le nord. Et logiquement, il devrait être sur le côté. Il est midi passé. Mais Régis, ce matin, m'a dit « Ah oui, mais là, tu peux rallonger un peu l'étape en montant dans la forêt de Vroville. » Parce que c'est vrai que jusqu'à maintenant, j'étais pas mal sur des petites routes où il n'y avait pas beaucoup de passages, quoi. Mais bon, c'était du goudron. Alors que là, je suis sur un chemin de terre. Et là, je redescends tranquillement vers Mirecourt, que j'ai pile en face de moi. J'ai retrouvé le GR, qui longe un grand champ de blé et une ligne de haute tension. Et alors, j'en reçois un petit message de Stéphanie, qui me dit « Tiens, une question me vient. Est-ce que tu es plutôt team ? Je ramasse les gros déchets que je peux voir ou non ?» Alors, c'est marrant parce que pendant le chemin de Compostelle, je ramassais tous les masques hygiéniques que je trouvais par terre. Mon but, c'était de faire disparaître les traces du Covid. Et là, eh ben, de temps en temps, oui, je ramasse. Mais par exemple, là, j'ai toutes ces canettes de bière, je ne pouvais pas les ramasser. Je n'ai pas de sac. À l'instant, j'ai vu des mouchoirs qui blancs par terre. Bon, ben, je les ai bien enfouis. Voilà. Alors là, je viens de franchir une rivière. Mais il n'y a pas le nom. Bonjour, monsieur. Excusez-moi de vous déranger. Quel est le nom de la rivière, là ?
Je sais pas du tout.
Ah bon ?
Je suis pas du coin, désolé.
C'est vrai ? Ouais, qu'est-ce que vous faites, là, au pied d'un arbre ?
J'allais faire une sieste et puis j'ai envie de lire.
Quel est votre rêve ?
Là, actuellement, c'est d'avoir un terrain assez... pas très grand, assez grand pour faire ce qu'il me faut en nourriture pour une année.
Vous avez envie d'être autonome ?
Ouais, tendre, vert.
Et je vous ai pas demandé votre prénom.
Jean-Louis.
Et vous faites quoi dans la vie, Jean-Louis ?
Eh ben, justement, si je suis à Mirecourt, c'est parce que je compte reprendre mes études. Je vais faire un BTS en gestion forestière à partir de septembre prochain. Voilà, c'est pour ça que je suis à Mirecourt. Moi. Et je connais pas encore le nom de la rivière.
Vous êtes excusé.
Merci.
Mais vous avez fait quoi avant ?
J'étais prof d'histoire géo.
Ah, et ça vous a pas éclaté ?
Si, ça m'a éclaté, mais trop de stress.
C'est vrai.
Trop de tension. Je préfère la forêt.
Ah d'accord. Ouais. Mais vous avez déjà tâté du bois ?
Ouais, petits travaux de bûcheronnage comme ça. Mais...
Bon.
Voilà.
Bah Jean-Louis, alors, je vous souhaite de trouver le terrain de vos rêves.
Hein. Ouais, merci.
Et bonne sieste. Hein.
Bonne continuation dans votre pérégrination.
Merci. Allez.
Au revoir.
Au revoir. Et je laisse Jean-Louis au pied de son arbre. Et là, je tombe sur Yannick Antoine. Alors, Yannick Antoine, vous êtes journaliste à Vosges Matin.
Oui, tout à fait. Oui.
Vous êtes venu m'interviewer, mais vous tombez mal. C'est moi qui vais vous interviewer.
C'est ambitieux.
C'est vrai ?
Ouais, je suis pas sûr d'avoir énormément de choses à dire. Je suis originaire de Mirecourt, mais je vis plus à Mirecourt.
Alors justement, je cherche le nom de cette rivière.
Le Madon.
Ben voilà. Quel est votre rêve, Yannick ?
Passer l'hiver, mais là je crois que j'y suis arrivé. Si vous voulez quelque chose d'intéressant, il faut aller là.
Et donc là, on est sur une espèce de grande place du village avec.
attention, c'est une ville faite comme était pas d'un père malheureux.
Ah, pardon.
Donc ça, quand j'étais plus jeune, on appelait ça la salle de la fête. Aujourd'hui, c'est appelé le cours Stanislas.
D'accord.
Pont Stanislas.
Que j'ai emprunté pour traverser le Madon.
Ouais.
Mais alors, vous m'avez dit votre rêve, c'était de passer l'hiver. Donc là, vous avez...
Ouais, j'ai réussi.
Parce que... Donc il faut un nouveau rêve, maintenant.
Oh, on les prend saison après les autres. Là, on va arriver chez Bruno Furgot, qui est de Contrexéville à la base, mais qui, c'est une quinzaine d'années, s'est installé ici, à l'Abondance, qui s'appelle aussi le Vieux Mondingue, et qui est une vraie bonne table.
Ah oui. Alors, je vous suis.
Ouais.
Même si c'est plus l'heure de manger. Mais... Bonjour messieurs. Quel est votre rêve, Bruno ?
Mon rêve ? Que les gens arrivent à se causer.
Et c'est difficile, vous qui tenez un restaurant ?
Ouais, depuis qu'il y a Internet, les portables, les machins, les gens ne communiquent plus.
Alors, vous mettez la télé par exemple. Est-ce que ça, justement, une télé en continu, ça coupe pas la communication entre les gens ?
Bah justement, j'essaye de les enlever et qu'ils puissent dialoguer et converser de ce qu'ils voient.
Ah,
et pas rester sur leur écran comme des cons.
Vous voulez qu'ils restent sur votre écran et
non,
pas sur
le... Non, pas sur le mien, mais là, il y a une télé, il y a, pour que ce soit, il y a, qu'il y ait du débat. Vous regardez le... Tiens, on va prendre aujourd'hui une actualité, les impôts, le gouffre du gouvernement avec nos impôts. Ça permet de débattre. Que si vous êtes devant un jeu sur un écran, vous débattez pas, vous êtes dans une bulle tout seul. Et ça fait 42 ans que je suis dans un bar.
C'est vrai ?
Donc si moi la communication je la connais pas, je vois pas qui peut la connaître.
Hein. Mais attendez, vous avez quel âge ?
44. Je suis né dans un bar.
Ah oui ?
Le premier verre que j'ai bu, c'était un biberon en trois fois. Parce que ma grand-mère servait les clients avant de me donner le biberon. Voilà.
Et donc, ça vous a donné envie de...
Ah bah oui, moi j'ai fait que ça toute ma vie, donc à partir de là, les choses sont simples.
Et quel est votre plaisir dans la gestion d'un bar ?
Le plaisir, c'est de rencontrer des gens. Tiens, regardez, vous rentrez, vous n'allez pas rentrer dans une boulangerie comme vous rentrez dans un bar. Alors vous y rentrez de la même façon, mais vous n'allez pas communiquer de la même façon. On s'y arrête dans un bar, on s'y pose. Et la chose, qu'est-ce qui rassemble dans un bar ? C'est la table. Et la table, on y mange, on y met la famille autour, on y converse, on s'engueule, on converse, on... Voilà, la table, c'est ce qui manque aujourd'hui, la table rassemblée autour. La Pâque, repas de famille. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de familles aujourd'hui qui font Pâques ?
Ben, c'est à vous que je pose la question, parce que vous...
Dans les anciennes générations, oui, mais la table n'est plus représentative. Parce que... le père rentre à telle heure, la mère repart à telle heure, les enfants sont un petit peu livrés à eux-mêmes pour faire autre chose, et plus personne n'est autour de la table. Les vacances géniales, c'est les vacances au ski. À partir de 18h, tu es obligé d'être autour de la table, tu ne peux pas être dehors. Que les vacances à la mer, personne n'est autour de la table. Tout le monde va à n'importe quelle heure, n'importe quand. Il y en a, c'est la nuit, il y en a, c'est le jour, c'est le matin.
Bien justement, vous, avec votre métier, est-ce que vous arrivez à être autour de la table avec votre famille ?
Moi, oui, c'est bien la seule et l'unique chose que j'ai mis dans mon programme de mon éducation et de ma vie. Être épicurien, ça se voit, je fais 110 kilos, et la table est importante. Voilà. Et recevoir les gens, et c'est très important. Très important. Le business passe après. Et quand vous avez compris ça, vous réussissez. Dans nos bourgs, si vous mettez le business avant la convivialité et la table, ça ne marche pas. Voilà.
Bon, ben, Bruno, je vous laisse retourner au boulot.
Ben, on y est. Voilà.
Merci, en tout cas.
Mais de rien.
Bon, madame.
Bonne continuation.
Merci. Et on sort du Vieux Mondingue. Et je suis... avec Yannick Antoine qui m'a accompagné devant la maison de la musique mécanique.
Alors, on est fermé malheureusement pour sobriété énergétique jusqu'au 30 mars.
Ah, comme ça vous consommez moins d'énergie pour
on
chauffer.
On n'en consomme pas du tout, voilà.
D'accord. Et je peux avoir votre prénom ?
Julie.
Mais vous pouvez me montrer quelque chose ? Parce que je ne sais pas ce que c'est la musique mécanique.
Alors, la musique mécanique rassemble tous les instruments qui abordent l'automatisation de la musique, d'accord ?
D'accord.
C'est-à-dire que là, on parle d'orgue mécanique, de piano mécanique, de boîte à musique. On va jusqu'au phonographe et TSF. Avec la musique électronique, on va s'arrêter là.
on va dire. Mais effectivement, on a ces instruments qui présentent donc dans cette collection 2 siècles d'évolution de musique mécanique, sachant que c'est à Mirecourt qu'on a fabriqué les premiers orgues mécaniques. Donc ça, c'est la particularité de la collection de Mirecourt.
C'est une question un peu difficile, mais est-ce que vous pouvez me faire entendre votre musique mécanique préférée?
Oui. Alors, il s'agit de l'orgue orchestre, qui est un orgue donc fabriqué par Didier Poirot. Poirot, c'était le facteur d'orgue de Mirecourt. Ça a été le génie, le créateur, l'inventeur, on peut dire. Hein. Et donc, Poirot, lui, il va s'inscrire dans une lignée de facteurs d'orgue, puisque son grand-père, Nicolas Poirot, se compte parmi les premiers facteurs d'orgue. Et donc, ici, on en est à la 3e génération. C'est certainement ce qui a été fabriqué de plus beau à Mirecourt. Et ces orgues annoncent donc des orchestrophones, c'est-à-dire les orgues limonaires, sachant que Limonaire, qui est installé à Paris, va copier 200 orgues Poirot avant de fabriquer ses instruments. Et lorsque Limonaire connaît son apogée au niveau de sa production, Poirot est l'un de ses sous-traitants. Donc ce sont des destins de facteurs d'orgue qui sont extrêmement liés.
Et alors celui-là a été fabriqué en 1877.
Voilà, et il va jouer ici donc des trompettes, des tuyaux trompettes en bois. Donc on peut dire qu'on a ici une sonorité extrêmement riche.
Place à l'orchestre.
Allez, orchestre, on y va.
Super. Ça va?
Oh, je sais pas, il y a un tuyau qui vibre un peu là, je trouve. Alors. Bon, c'est pas très juste au niveau d'un tuyau. Mon rêve, je crois que mon rêve, c'est une vie de paix.
Mais vous êtes en paix?
Ouais, avec moi-même, oui.
Et... est-ce que vous avez un rêve personnel, un truc que vous aimeriez faire ou...
Personnellement, je pense que de vivre comme ces instruments de musique mécanique nous invitent à le faire, c'est-à-dire une vie de belle musique, d'impulsion, de rire, de fête, et puis de gaieté, parce que ces instruments étaient tous... incroyablement gai, quand même, joyeux.
Et alors là, le limonaire, ça vient pas de limonade?
Non, limonaire, c'est un nom de famille, c'est une antonomase. C'est un nom propre qui va devenir un nom commun.
D'accord, et qui qualifie l'instrument.
Et qui va... alors, nous, si on regarde un Larousse ou un dictionnaire, limonaire, ça évoque toujours une sorte d'orgue comme ça, de barbarie, qui va jouer dans la rue. Alors le limonaire, il est souvent évoqué en poésie ou en chanson. Et il va plus évoquer même le tourneur d'orgue avec son limonaire ou la musique du limonaire. Mais on ne va jamais parler... de l'orgue en lui-même, ce qui fait que limonaire, dans notre vocabulaire, c'est quand même un attribut de la poésie ou de la chanson. Ça n'est absolument pas, je dirais, réel.
Attends.
Donc on peut y mettre ce qu'on veut.
D'accord. En attendant, c'est très physique comme instrument, hein ?
Oui, et il faut savoir que ce sont des instruments qui se sont fabriqués avant la mécanisation, et qu'effectivement, c'était plutôt le bal des costauds. Hein. On voit aussi que les personnes étaient quand même plus musclées que nous. C'est parti.
Et c'est ici que va se terminer la balado du jour, à Mirecourt. Mais on se retrouve dès demain, 6h du matin, pour les plus courageux, évidemment. Mais d'ici là, portez-vous bien. Bonne balade à tous. Ciao !
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.